Cette semaine à la vie en BD, on porte un regard sur le genre super-héroïque dans la bande dessinée québécoise des années 68 aux années 90. Bon mardi à tous et à toutes. Bienvenue à cette édition de La Vie en BD. Raymond Poirier avec vous. Toujours un plaisir de vous retrouver et de temps en temps, il y a des beaux sujets qui se pointent vers nous. On a donné un peu de temps au fil des années à l'histoire de la bande dessinée québécoise. On le fait avec différents experts autour de différents ouvrages, que ce soit Du chien d'an dans le printemps de Sylvain Lemay, que ce soit les deux tomes de BDQ de Michel Viau, entre autres ouvrages de référence. Et dans ces ouvrages-là, en fait, c'est toujours intéressant parce qu'on va faire vraiment l'histoire de la bande dessinée au Québec par des auteurs québécois. Ça nous fait prendre conscience un peu de l'évolution et de l'amplitude, de la richesse aussi de l'histoire de la BD d'ici. Et je me rappelle en fait que sporadiquement dans ces éléments-là, on fait référence à d'autres BD qui sont également disponibles ici, notamment du côté de la production américaine qui a pris quand même une place importante au fil des années et qui est venue influencer évidemment aussi le développement de la bande dessinée d'ici, entre autres avec des figures comme les éditions Héritage qui sont citées ça et là. Et bien là, il y a un ouvrage qui est sorti cet automne du côté des presses de l'Université Laval, un ouvrage qui s'appelle Alter Ego, le genre super-héroïque dans la BD au Québec, 1968 à 1995. C'est de Philippe Rioux. Et ben, de toute évidence, comme le titre le dit bien, ça nous amène vers le comic américain et de voir comment ce comic-là s'est tranquillement installé du côté de la sphère BD québécoise. Alors, ben, pour en parler avec nous, l'auteur est là, Philippe Rioux. Bonjour.
Bonjour, merci de m'accueillir.
Ça fait plaisir. Et évidemment, pour les auditeurs, je pense qu'on va passer un bon moment avec Philippe. Je pense que ça va prendre pas mal toute l'émission parce qu'on parle quand même d'un ouvrage de près de 400 pages, extrêmement détaillé, où on part vraiment des années 30. On monte tranquillement jusqu'aux années 1995. Et dans un corpus assez large aussi, je pense que commençons un peu par faire l'étalage de la thématique et de la méthodologie, parce que d'entrée de jeu, on choisit de s'intéresser donc à la littérature américaine, au comic book. Ce qu'il faut dire, c'est que c'est pas du tout, et ça fait longtemps que ce n'est pas du tout un genre marginal, et on le voit de plus en plus dans le panorama culturel. C'est une culture qui est de plus en plus populaire, mais qui est populaire depuis longtemps.
Oui, en fait, c'était le point de départ de ma réflexion quand j'ai choisi mon sujet de thèse, parce que ce livre-là est tiré de mes recherches doctorales. Je me rendais compte qu'on voyait des super-héros partout. Là. C'était un peu l'âge d'or du cinéma de Marvel, par exemple. On commençait à avoir des films qui paraissaient à tous les deux ou trois mois, là, comparativement à quand j'étais plus jeune, où il y en avait un à tous les deux ou trois ans. Donc là, il y avait un engouement pour le genre super-héroïque dans les médias autres que la BD, parce qu'en BD, ça a toujours existé. Là, en jeu vidéo, au cinéma, à la télé, on en retrouvait aussi. Puis je me disais, bon, ben, on est au Québec, mais ce genre-là qui est profondément ancré dans la culture américaine demeure ou est encore plus dominant qu'il ne l'a jamais été dans la culture ambiante, disons. Donc là, je voulais voir, en fait, avec mes travaux, d'où partait cet intérêt-là au Québec pour un genre à la base étranger ou exogène. Qu'est-ce qui avait été fait pour l'amener à être connu, apprécié du public québécois? Et évidemment, pour faire ça, il fallait que je passe par la bande dessinée parce que c'est à travers ce médium-là, particulièrement le support du comic book là, pour ce qui est du super-héros, que le genre a commencé à circuler tant aux États-Unis qu'au Canada et au Québec.
Oui, effectivement. Et les autres médiums, jouets, films, jeux vidéo et autres, se sont ajoutés progressivement. Et on va le voir, on va sûrement en reparler en cours de route, mais dans le fond, sont devenus un facteur de rentabilité pour la bande dessinée super-héroïque américaine et sont devenus aussi un facteur détrimental, dans le fond, pour la bande dessinée d'ici au final, qui n'avait pas accès à ces autres outils-là pour se rentabiliser.
Oui, tout à fait. Même que du côté américain, là, on admet assez bien maintenant que la bande dessinée de super-héros, c'est un produit dérivé des films, finalement. Même aujourd'hui, là, c'est pas le secteur pour, par exemple, Marvel Comics qui appartient à Disney. Ben, la bande dessinée publiée mensuellement, c'est pas ce qui va faire le plus de profit. on s'en sert comme banc d'essai pour tester des idées, des séries, des personnages, voir comment c'est reçu, par exemple, par le lectorat. Mais ce qui fait faire des sous aux entreprises, c'est principalement les médias audiovisuels, donc le cinéma, la télévision, le jeu vidéo aussi, dans la mesure où certains titres ont eu de grands succès, même si il y a encore assez peu de super-héros là, qui ont droit à des adaptations vidéoludiques. C'est toujours les mêmes, Spider-Man, Batman, par exemple. Mais bon, on sent bien que la bande dessinée est devenue depuis les années 70-80 là, un peu comme un support secondaire pour des entreprises qui font partie de conglomérats. Je disais que Marvel appartient à Disney, ben DC Comics appartient à Warner Bros. Donc, c'est des compagnies qui n'ont pas la bande dessinée au cœur de leur projet, si on veut, entrepreneurial.
Oui, puis ça influence un peu au bout du compte la bande dessinée. Puis qu'on pense aussi, on parle beaucoup des années 80 avec Alan Moore, Neil Gaiman et d'autres qui tranquillement sont venus faire des expérimentations, qui ont fait école par après dans les films, dans les adaptations. Mais ça renforce un peu cette idée que le volet dessiné devient un peu un laboratoire d'idées où on donne un peu plus de laisser aller de place aux auteurs à une vision spécifique plutôt qu'à quelque chose de plus homogène, comme c'était le cas au début du genre super-héroïque, où on se retrouvait quand même avec un produit qui était assez uniforme, avec une vision d'un super-héros qui était imposée dans le fond à l'ensemble de ses auteurs ou dessinateurs.
Oui, puis en fait, c'est tout ça nous apprend aussi que bon, l'édition à long terme d'un personnage super-héroïque, le maintien là, d'une série à long terme, vient avec son lot de difficultés. Parce que si la bande dessinée du super-héros devient un peu moins populaire au fil des décennies, c'est oui dû à l'émergence de médias qui, eux, occupent les temps libres du public, du lectorat et à ce moment-là des auditeurs, mais c'est aussi dû au fait qu'il faudrait être de plus en plus spécialisé pour comprendre les récits qu'on retrouve en bande dessinée de super-héros, dans la mesure où certains univers narratifs sont vieux de 70, 80, 90 ans, donc ça prend un bagage de connaissances important pour arriver après ça à saisir tous les enjeux, les relations entre les personnages, par exemple, les références à des histoires antérieures. On voit ça même, là, on évoquait tantôt la question des éditions Héritage. Assez tôt dans leur histoire, les éditions Héritage doivent composer avec ces difficultés-là parce qu'il y a des lecteurs qui leur écrivent pour dire, ben, c'est qui lui? Pourquoi il se retrouve là tout d'un coup? Ce personnage-là, on n'a jamais parlé avant dans nos bandes dessinées. Est-ce que vous pouvez nous expliquer qui ils sont? Puis là, bon, les éditeurs doivent aller chercher de l'information auprès de Marvel Comics, DC Comics, dont ils traduisent les aventures, pour renseigner le lectorat sur ces univers qui ont l'air finalement, d'un point de vue extérieur, assez répétitifs, toujours semblables, mais qui ont plusieurs particularités quand on les regarde dans le détail, qui doivent être bien connues par le public, par le lectorat, pour apprécier ces univers-là.
Et quand on parle de regarder dans le détail, d'ailleurs, si on revient un peu à la démarche derrière cet ouvrage-là, donc tu y vas avec une analyse quand même assez détaillée. On parle de 68-95, évidemment, on commence un peu avant, mais le cœur, c'est les publications Héritage, c'est des publications de bande dessinée fantastique, c'est d'autres éditeurs qui t'ont offert un corpus assez complet. Est-ce qu'on se retrouve dans une dynamique où, dans un premier temps, il faut, en bibliothèque, en collection ou ailleurs, retracer à tout le moins une quantité suffisante de ces ouvrages-là pour en faire une analyse qui est représentative, dans le fond, de l'ensemble de la production?
Ouais, ben moi je suis chanceux de ce point de vue-là parce qu'il y a plusieurs personnes qui ont fait ce premier défrichage avant moi. Je vais prendre la peine de les nommer d'ailleurs parce que c'est important ce travail-là. Pour ce qui est des comics Héritage, par exemple, il y a eu un peu plus de 1550 fascicules publiés, donc c'est énorme. Ils ont tous été recensés par une équipe de quatre personnes, Alain Sallois, Glenn Lévesque, Rosard Fontaine et Jean-François Hébert, qui sont des passionnés de bandes dessinées de super-héros, passionnés des éditions Héritage. Quand ils étaient jeunes, ils lisaient ces bandes dessinées traduites en français au Québec et ont publié un guide qui est en fait un répertoire de toutes ces publications-là, mais qui contient aussi des informations importantes sur les enjeux éditoriaux auxquels les éditions Héritage devaient faire face, la façon de travailler chez Héritage à ce moment-là, la place qu'occupait aussi la bande dessinée dans leur catalogue, hein, parce que Héritage, on connaît surtout la maison maintenant comme un éditeur de livres et non comme un éditeur de comic book, là. Mais donc, il y a deux secteurs d'activité qui évoluaient en parallèle à ce moment-là. C'est bien relaté dans leur guide. Tantôt, tu parlais de Michel Viau qui a écrit une histoire de la bande dessinée québécoise. Bien, il y a beaucoup de renseignements bibliographiques dans ces ouvrages qui sont extrêmement précieux pour constituer ce corpus-là qui allait, moi, m'intéresser pour l'analyse plus fine au sens où là, j'allais vraiment plonger dans les œuvres. Mais le recensement des ouvrages en tant que tel avait pas mal été fait. Puis c'est vrai qu'à BANQ, après ça, quand on veut les consulter, ces ouvrages-là, on a la chance, avec le dépôt légal au Québec, de pouvoir avoir accès à ces publications. Donc, les éditions Héritage ont presque la collection complète là, se trouve à BANQ. Donc, moi, j'ai sélectionné à peu près 10% du catalogue super-héroïque. Mais bon, j'aurais pu en inclure beaucoup plus. Là, j'ai procédé. Il faut faire des choix. Donc, je suis allé en fonction, entre autres, des rubriques éditoriales qu'on retrouvait dans ces publications-là. Moi, je voulais étudier les cas où il y avait beaucoup d'interventions des éditeurs dans les bandes dessinées. Et c'était possible, donc, de me rendre à BANQ, de fouiller dans ces BD-là, de voir ce qui était intéressant, ce qui l'était moins, ce que je voulais retenir. Donc, on a plusieurs outils pour la recherche au Québec en bande dessinée. Ils ne sont pas toujours très bien connus, mais il y a une très grosse partie du travail qui a été fait par des fans ou des amateurs qui nous facilitent la vie comme chercheurs.
Et on se retrouve avec un ouvrage, donc Alter Ego. C'est un peu, si je le simplifie au maximum, divisé un peu en deux parties. Donc, d'un côté, on fait un peu l'histoire, l'évolution du genre, les controverses qui ont orienté un peu son développement puis son implantation aussi au Québec, parce qu'il faut comprendre dans quelles conditions, dans le fond, l'ouvrage s'implante, arrive ici. Et dans le deuxième temps, là, on tombe vraiment dans le 10% dont tu parlais, où là, on fait de l'analyse pour voir justement mais comment l'œuvre s'est adaptée à la réalité québécoise, comment elle a été adaptée, les choix qui ont été faits, la traduction, entre autres. Donc, c'est un peu autour de ces deux paramètres-là là, que s'articule ton travail que tu nous offres dans Alter Ego.
Oui, puis je trouvais que le parcours historique que je fais dans la première moitié de l'ouvrage était essentiel, en fait, parce que souvent, on aborde la question du super-héros par rapport à l'histoire de l'édition américaine. Mais là, dans la mesure où moi, je voulais voir comment ce genre-là se déploie au Québec, il fallait que je mette en relation l'histoire de l'édition aux États-Unis avec celle de l'édition au Canada, anglais, et au Québec, parce que tout ça est interrelié. Ce qui se fait, ce qui se produit au Québec, dépend de ce que les éditeurs américains veulent bien envoyer ici pour traduction, dépend des ententes commerciales entre les éditeurs québécois et les éditeurs américains. Il y a aussi bon des enjeux reliés à la circulation de ces œuvres-là dans le Canada anglais qui souffre beaucoup plus de la présence du super-héros américain parce que, bon, à cause de la proximité linguistique, les éditeurs anglophones du Canada arrivent difficilement à survivre à moins de reproduire les œuvres américaines. Donc, il fallait resituer, si on veut, notre histoire super-héroïque par rapport à celle du reste du continent nord-américain. Et puis après ça, ça permettait effectivement d'entrer dans notre production ici, qu'il s'agisse de traduction ou d'œuvres originales, parce qu'il y en a eu aussi très peu là, en comparaison, mais il y a eu des créations super-héroïques faites entièrement au Québec par des créateurs québécois.
Et on parle de circulation des œuvres. Au final, c'est d'ailleurs en fait des règlements en lien avec la circulation et l'accès, l'importation de matériel qui ont vraiment permis, je dirais, une grosse première phase de développement local de bandes dessinées à caractère super-héroïque. Et là, on retourne un peu à la Deuxième Guerre mondiale au final. Donc, le genre super-héroïque avait fait son apparition, avait fait sa place tranquillement du côté américain. Bon, pas toujours facilement, on y reviendra. Et au niveau canadien, ben, c'est qu'on arrive à cette époque-là en disant, ben, OK, les produits non essentiels, on n'a plus le droit de les importer, mais il y a quand même une production locale qui est permise. Et donc, le local a pris un peu la place qui était laissée libre puis a commencé à importer, dans le fond, de la production américaine à ce moment-là.
Oui, ben, c'est ça. C'est qu'en fait, si on veut parler un petit peu de chiffres, ça donne une idée de l'ampleur du phénomène éditorial que le super-héros représentait à l'époque. Une publication normale, disons, là, pouvait aller chercher environ 1 million de lecteurs. Aujourd'hui, une bande dessinée de super-héros très populaire va ramasser autour de 100 000 lecteurs. Puis on est beaucoup plus nombreux dans la population américaine et canadienne. Il y avait un lectorat là qui était très important à aller conquérir. Du côté du Canada anglais, on pouvait difficilement aller conquérir ce lectorat-là en tant qu'éditeur local, dans la mesure où les comic books étaient exportés au Canada. Mais c'est vrai que durant la Deuxième Guerre mondiale, là, tout d'un coup, il n'y a plus d'approvisionnement qui se fait en bande dessinée de super-héros au Canada. Et là, il y a des lecteurs qui attendent des aventures. Ils ont cette habitude de lecture-là. Ils veulent continuer à lire des bandes dessinées d'aventures, au moins, sinon de super-héros. Et c'est pas long qu'il y a des éditeurs canadiens qui se constituent, là, qui forment des entreprises pour soit créer eux-mêmes des bandes dessinées de super-héros locaux. En général, ça va être des polices montées là, qui ont des facultés athlétiques extraordinaires. Ou aussi, ce qui va arriver, c'est qu'on va reprendre parfois des scénarios issus de bandes dessinées américaines avec l'accord des éditeurs américains et on va redessiner les œuvres parce qu'on peut pas les importer directement. Donc, on engage des dessinateurs canadiens qui, à partir des scénarios américains, vont refaire, vont reconstruire ces œuvres-là pour ensuite les vendre au Canada. Il y a un partage des revenus avec les éditeurs américains qui est possible à ce moment-là. Donc, il y a une relation un peu ambiguë avec la production américaine dans la mesure où si on arrive à s'entendre avec eux, on a accès à un coffre-fort de franchises, mais aussi donc monétaires importants. Mais c'est aussi un peu offrir à l'ennemi une chance de demeurer en place dans le marché. Puis c'est ce qui est arrivé après la fin de la guerre. L'interdiction d'importation d'œuvres, d'objets non essentiels au Canada est levée. Et donc là, les éditeurs américains s'occupent eux-mêmes de la distribution de leurs œuvres. Ils n'ont plus besoin des éditeurs canadiens pour y parvenir, ce qui fait en sorte que les éditeurs canadiens disparaissent assez rapidement ou se tournent vers d'autres genres que ceux du super-héros et de la romance, ce qui était très, très populaire. Au Québec, on a été un petit peu épargné par ce phénomène-là, étant donné qu'on publie en français. Donc, le lectorat francophone était très peu intéressé de toute manière là, aux publications de super-héros, soit canadiennes-anglaises, soit américaines-anglophones. On sait que ça a circulé quand même dans les régions, disons, bilingues, comme Montréal, Sherbrooke, Ottawa aussi, bien entendu, même si ce n'est pas au Québec, c'est à proximité du Québec, disons. Mais les journaux, entre autres, qui publiaient des traductions de bandes dessinées de super-héros, ont pu quand même continuer à faire de l'argent avec ça parce que eux, ben, la traduction, c'était le moyen d'accéder au lectorat. Donc, les éditeurs américains n'avaient pas le choix de passer par eux pour arriver à rejoindre le lectorat francophone du Québec. Donc, c'est une situation un peu particulière due à notre spécificité linguistique.
Exact. Donc, il y avait une étape supplémentaire, ce qui, un peu comme dans tous les pans de notre culture, au bout du compte, est venu permettre, dans le fond, le développement d'une culture québécoise par opposition à une culture canadienne qui, elle, se trouve dans une dichotomie beaucoup plus complexe avec l'américain de par la parenté de langage. Donc, il reste. Et dans un contexte aussi, puisqu'on parle d'écueil, outre la langue, et ça, c'est valide pour le Canada et même pour les États-Unis. Et quand je disais les chapitres, parce que tu consacres quand même une bonne section, c'est à tous les enjeux de censure, des enjeux de moralité associés à ça. Et c'est toujours fascinant de voir qu'époque après époque, du jazz au comic book, aux jeux vidéo et le reste, ben qu'il y a toujours, dans le fond, des enjeux face à un certain conservatisme pour l'émergence de nouveaux éléments qui ont potentiel, dans le fond, de devenir des parts intégrantes de la culture populaire. Et j'ai été fasciné par le backlash qu'il y avait pu avoir autant aux États-Unis qu'ici face à cette production-là et même carrément en référence à des lois du code criminel où on parlait de violence, de crimes et le reste. Donc, c'était contre la morale et contre le droit dans une certaine mesure.
Oui, puis en général, ces questions-là sont sensibles dès que l'objet s'adresse à des enfants ou à des mineurs, là, disons, parce qu'on peut parler d'adolescence aussi, même si à l'époque, le concept d'adolescence n'était pas encore tout à fait développé. Là. Disons que les jeunes et les très jeunes étaient visés par ces publications-là, ce qui fait en sorte que les autorités morales, religieuses principalement, là, avant les années 60 au Québec, avaient à l'œil ces publications-là. Puis on parle de bande dessinée, c'est l'objet auquel je me suis intéressé, mais c'est vrai pour à peu près tous les imprimés, les revues, la littérature, le cinéma aussi, bien entendu, là, qui n'est pas un imprimé, mais qui est un médium qui gagne en popularité à partir des années 1930-1940 au Québec. Donc, il y a toujours cette méfiance-là. Méfiance qui est accentuée aussi par le fait que c'est un médium visuel en grande partie. En général, les censeurs, ce qu'ils vont reprocher aux œuvres en question, aux bandes dessinées, c'est la représentation graphique de la violence ou d'une certaine forme de sensualité. Là, à l'époque, on parle de pornographie, mais on est très loin de la définition actuelle. Imaginons des décolletés un peu plongeants, puis des costumes moulants. Là. C'est ça, à l'époque.
C'était plus facile d'être pornographique, mettons.
C'est ça, c'est pas tout à fait la même chose. Mais à l'époque, c'était assez pour choquer. Puis il n'y a presque pas de commentaires formulés sur le contenu narratif des œuvres. Ça nous laisse penser peut-être aussi que les censeurs ne les ont pas vraiment lus. Ils se sont arrêtés à la couverture ou aux illustrations pour émettre un jugement. Et donc, cette attention accordée à l'image, mais cette place aussi qu'occupe l'image dans le corpus de bande dessinée fait en sorte que ça devient un objet beaucoup plus dangereux aux yeux d'une certaine censure. Cela dit, au Québec, encore une fois, la censure a quelque chose de particulier, c'est-à-dire qu'elle va moins s'inquiéter des conséquences du genre super-héroïque, mais des comic books aussi, de façon générale, par exemple ceux d'horreur ou les comic books sentimentaux. Donc, à moins de s'inquiéter des conséquences sur le comportement des jeunes. Aux États-Unis, c'était ça la question centrale. On se disait que la lecture de bandes dessinées sous forme de comic book allait entraîner une forme de délinquance juvénile. Il y avait des cas là, qui étaient donnés en exemple de jeunes délinquants qui s'étaient soit suicidés, ce qui est très, très grave évidemment, soit qui avaient commis des actes de violence très graves aussi. Et donc, on associait ces délits-là, ces événements, ces faits sordides finalement, à la lecture, à la consommation de bandes dessinées. On cherchait en fait une excuse ou un coupable à blâmer. Puis on l'a fait là, de façon spectaculaire. Là. Il y a eu des commissions d'enquête télévisées, des reportages dans les téléjournaux aux États-Unis, au Canada, qui ont été faits, qui ont été consacrés à la bande dessinée puis à la question de la délinquance juvénile. Au Québec, on va reprendre un peu ce discours-là chez les censeurs, mais les censeurs ne sont pas que des gens du clergé. Il y a aussi des professeurs parmi eux. Et ces professeurs-là, eux, ce qu'ils identifient comme problème, c'est que la lecture de bande dessinée, que ce soit du genre super-héroïque ou d'un autre genre, détourne les jeunes lecteurs de lecture plus édifiante, disons, de lecture plus légitime. Donc, on a peur que ça crée des retards, finalement, dans la littératie, dans l'aptitude là, de lecture des jeunes Québécois. Donc, l'enjeu là, est plus intellectuel, disons, que moral même. À savoir, après, est-ce que c'est une excuse qu'on utilise pour détourner ou convaincre plus facilement, disons, les parents d'éviter l'achat de ces publications-là? C'est possible de le croire. Mais cet argument-là revient si souvent qu'on peut penser qu'il y a une véritable préoccupation de cet ordre-là. On craint que la jeunesse québécoise ne développe pas ses capacités langagières, ses capacités de lecteur, ne les atteigne pas ou ne les amène pas à leur plein potentiel finalement parce que la bande dessinée les aura détournées d'œuvres qui sont, elles, aptes à accomplir ça.
Et un autre élément que tu mets de l'avant dans l'ouvrage, c'est aussi l'idée que dans la structure même du genre, dans le fond, dans la lutte contre le mal, ben que dans le fond, on a un justicier, on a un super-héros qui se substitue aux institutions compétentes, qui se substitue dans le fond aux autorités constituées. Et donc, ce qui fait que on amène à travers ça, dans le fond, des nouvelles valeurs. Aussi inspiré un peu de la culture américaine, qu'on amène un esprit peut-être de méfiance, de rébellion par rapport à une certaine autorité. Et donc, il y a une volonté, entre guillemets, de préserver une certaine morale catholique, québécoise, des valeurs typiques, si on peut dire, qui vont faire aussi, même carrément, qu'on va amener et tenter d'amener le super-héros vers, dans le fond, un contenu plus religieux, plus adéquat d'un point de vue moral.
Ouais, ben c'est d'abord la question du vigilantisme là, qui pose problème, qui est un concept très américain, là, de ce héros qui va passer par-dessus les autorités légales compétentes, policières aussi, pour accomplir sa quête de justice. Donc, c'est un auto-justicier, c'est sa définition de la justice qui est la bonne et qui va donc être mise en valeur dans les publications. Cette idée-là, on n'y adhère pas beaucoup là, du côté des censeurs québécois. On trouve ça un peu dangereux, ça met à mal les institutions, ça génère de la méfiance envers l'ordre social. Donc, évidemment, ça peut poser problème. Et parallèlement à ça aussi, ce qu'on va dire, c'est que les super-héros, en plus donc d'agir un peu comme ils le veulent, finalement, ils sont si puissants qu'ils font ombrage à Dieu, carrément. Donc, il s'oppose un peu à la providence, là, la figure surpuissante. Ce n'est plus la figure divine, mais c'est la figure super-héroïque dans certaines publications. Donc, on les juge aussi dangereuses de ce point de vue-là pour ce qui est de l'adhésion aux principes catholiques chrétiens. Donc, il y a ces deux volets-là qui sont mis en relief. Ça va effectivement faire en sorte que certaines communautés religieuses, par exemple, vont décider de publier eux-mêmes des bandes dessinées de super-héros ou d'aventures. Là. Disons que ce n'est pas des super-héros très puissants pour la raison que je viens d'évoquer. Donc, on a plutôt des aventuriers ou des justiciers qui sont un peu plus talentueux. Imaginez des espions ou Tintin, par exemple, ce genre de personnages-là. La revue Héros, qui est à la base une traduction d'un comic book américain, Timeless Topics, qui est édité chez Fides, est le meilleur exemple de ce type de publication-là qui veut un peu combattre le feu par le feu. C'est-à-dire qu'on est conscient que les jeunes Québécois vont continuer à lire des bandes dessinées d'aventures ou de super-héros. Et donc, on se dit que le moindre mal, ce serait au moins de leur offrir quelque chose qui est approuvé par le clergé, qui est vérifié. et qui est donc offert aussi en français, parce qu'on se rendait compte que même le lectorat francophone, tantôt je disais qu'il n'y avait pas accès aux comic books anglophones à cause de la langue, ça ne l'empêchait pas de consulter les images. Hein. Donc, il y avait des lecteurs, des jeunes lecteurs dans les cours d'école, par exemple, qui faisaient circuler des comic books, puis on s'imaginait des histoires à partir des illustrations. Donc, ça aussi, on jugeait ça un peu dangereux parce que ça stimule l'imagination, ce qui n'est pas toujours encouragé non plus là, du point de vue de la doctrine religieuse. Donc voilà, donc on propose des publications pour contrer un petit peu ce phénomène-là. Ça fonctionne très bien. Hein? Héros, cette revue, va paraître au milieu des années 40. Il va connaître des tirages qui oscillent entre 80 000 et 100 000 exemplaires pendant plusieurs mois, plusieurs années même, ce qui est complètement exceptionnel là, dans le contexte éditorial québécois. Une revue aujourd'hui qui paraîtrait qu'il y aurait ces tirages-là serait très heureuse. Donc, il y a un réel succès. Succès qui est encouragé par le fait que cette revue est offerte en prix de fin d'année, en étrenne aussi dans le temps des fêtes aux jeunes écoliers. Donc, on s'arrange pour qu'elle soit remise en toutes les mains. Et ça vient remplacer les mauvaises lectures. Donc, ça fonctionne. L'objectif qu'on s'était fixé à ce moment-là fonctionne bien. Cette revue va paraître pendant une vingtaine d'années d'ailleurs, là, ce qui aussi, en termes de longévité, est exceptionnel. Il existe malgré tout toujours, à ce moment-là, des bandes dessinées de super-héros au Québec. Traduites par exemple dans les journaux, mais encore là, les traductions vont être surveillées de près par des instances religieuses. Par exemple, le journal L'Action catholique est un journal chrétien qui va publier des aventures super-héroïques ou d'action, là, il y a des espions là-dedans aussi, qui à la base étaient peu surveillés parce qu'il y avait des actes de violence extrêmement surprenants commis dans ces BD-là, mais qui vont s'adoucir aussi avec le temps. Donc, on décide finalement de laisser un peu circuler ces bandes dessinées-là, se rendant compte qu'on n'arriverait pas à contrôler la lecture de façon absolue, mais on s'assure d'offrir quelque chose qui est plus convenable aussi au lectorat puis aux parents qui voudront acheter ces publications-là à leurs jeunes enfants.
Et là, pour se situer un peu, on est, je dirais, au cours, on pourrait se dire qu'on est rendu un peu à la fin des années 50, au bout du compte, avec tout ça, dans l'évolution un peu du genre et dans un contexte où on le voit à travers les outils, mais dans le fond, ceux qui font potentiellement un certain acte de censure ou de limitation, dans le fond, se donnent des outils pour aller rejoindre et contribuent de cette façon-là quand même aussi à la dissémination et à l'évolution du genre comme tel, en luttant contre certaines de ces sous-ensembles. Et en parallèle, ben, sachant que c'est un problème qui est très, très large, qui est nord-américain, la notion de censure, ben, veut pas les originaux du côté de Marvel, DC et autres, adaptent aussi leur contenu face à la censure et donc rendant, j'imagine, plus acceptable aussi leurs produits pour poursuivre un peu leur mise en vente à l'échelle continentale.
Oui, tout à fait. On pourrait même dire, en fait, que la censure est plus sévère du côté américain qu'elle ne l'est du côté québécois parce qu'elle agit en première ligne. Là. C'est elle la première à interagir avec les éditeurs et les auteurs des œuvres originales. Dès le milieu des années 50, il y a aux États-Unis une autorité, la Comics Code Authority, donc une entité censoriale qui est mise en place pour surveiller, mais aussi lire et commenter tous les comic books qui seront publiés. C'est pas une entité qui a un pouvoir légal, c'est-à-dire que c'est l'industrie qui a mis en place cette organisation-là pour s'auto-réguler et comme ça un peu détourner l'attention là, des autorités politiques et religieuses parce qu'on craignait qu'il y ait une loi qui vienne finalement empêcher la circulation des comic books de façon totale. Donc, on s'est dit, ben, on va mettre en place nous-mêmes nos propres mécanismes de surveillance. Et donc, cette Comics Code Authority-là, elle met un sceau sur les publications qu'elle approuve. Et ce sceau-là va avoir une valeur morale tellement importante que ça devient aussi un gage de rentabilité économique parce que les parents, même les distributeurs, les commerces, les kiosques à journaux ne voudront plus rien savoir d'autres publications que celles qui portent ce sceau-là. Et puis, les consignes qu'on donne aux éditeurs sont très, très strictes. Il ne peut pas y avoir, par exemple, d'impact entre un point et un visage. Donc, il faut mettre une bulle par-dessus ou un effet sonore, quelque chose comme ça. On voit ça, d'ailleurs, dans le générique de la série télévisée de Batman des années 1960. Là. C'est un peu un clin d'œil à cette époque sensorielle-là. Donc, ça, c'est un des principes. On ne peut pas non plus, évidemment, représenter de meurtre ou de scène de violence sordide. Il faut que l'autorité policière, politique et juridique soit toujours montré sous un jour favorable. Donc, on vient un peu là, contourner aussi le principe de vigilantisme qu'on craignait. Donc, tout ça est déjà mis en application aux États-Unis avant que ces publications-là nous parviennent à nous au Québec, où il y a une deuxième couche de censure qui est mise ou qui est appliquée par-dessus ça. Donc, on peut dire qu'à ce moment-là, à la fin des années 50, la bande dessinée américaine, de façon générale, est assez épurée. Ce qui, étrangement, permet aux genres super-héroïques de retrouver la popularité qu'il avait à la fin des années 1930. Parce qu'il faut comprendre qu'à partir du milieu des années 40 jusqu'au milieu des années 50, les deux genres dominants du côté de la bande dessinée américaine, c'était l'horreur chez EC Comics et la romance. Il y avait plusieurs éditeurs différents, mais entre autres, l'ancêtre de Marvel Comics était très, très compétent dans ce champ éditorial-là. Donc, le super-héros était devenu un peu un genre secondaire par rapport à ces deux genres très, très, très présents, très populaires. Mais ce sont aussi ces deux genres-là, l'horreur et la romance, qui ont été principalement ciblés par la censure et qui étaient plus difficiles à adapter aux nouvelles conditions, aux nouvelles attentes, en fait, des censeurs. C'est difficile de faire de l'horreur sans meurtre, par exemple, ou sans monstre. C'était carrément interdit de représenter des monstres. Donc là, il y avait, évidemment, on ne pouvait pas continuer dans cette voie-là. C'est difficile aussi de montrer de la romance sans scène de contact physique. Ces deux sous-genres ont été un petit peu évacués de la production éditoriale et c'est le super-héros qui est ressurgi, là, qui a ressurgi comme avatar du genre de l'aventure au sens large. Et ça a permis à des éditeurs comme Marvel Comics qui proposaient des super-héros qui travaillaient un petit peu en collaboration avec les autorités au départ. Hein, ça a changé par la suite, là, mais au départ. Donc, ça a permis à ces éditeurs-là de retrouver un certain succès et ça a permis aux gens super-héroïques de définir finalement la production américaine depuis le début des années 1960.
Et Philippe Rioux, en fait, si on se reporte maintenant vers le Québec, on parlait donc des effets des années 68. En fait, en 1968 comme tel, c'est Héritage qui s'implante. On en a fait mention en introduction. Et c'est cet éditeur-là qui va vraiment se faire le porteur de la majorité, dans le fond, de la production traduite. On parle de milliers de titres qui ont été traduits sur les 20 ans d'activité de l'éditeur. Mais un éditeur qui a quand même eu un âge d'or, on pourrait dire, après des débuts un peu plus difficiles, donc s'est lancé un peu plus dans les années 70, a connu un âge d'or au début des années 80.
Oui, c'est ça. Puis les éditions Héritage arrivent un petit peu à la bande dessinée de super-héros par accident, c'est-à-dire que le propriétaire, M. Payette, à l'époque, en 1968, quand il acquiert les éditions Héritage, qui n'avait rien publié auparavant, mais qui est une structure éditoriale qui venait d'être mise sur pied, il décide par la même occasion d'acquérir aussi des presses rotatives. Et pour rentabiliser son achat, parce qu'il fait aussi de l'impression de journaux, par exemple, il se dit aussi bien les faire tourner 24 heures sur 24. Donc, ça me prend une production abondante que je pourrais imprimer, publier chez nous. Et c'est comme ça qu'il entre en contact avec Marvel Comics. À l'époque, on fait prendre le téléphone, appeler à New York, puis ça se réglait facilement. Là, aujourd'hui, c'est un peu différent. Et il dit, je vois que vos bandes dessinées sont bien présentes en anglais dans les kiosques à journaux de Montréal, par exemple. Les éditions Héritage sont situées à Saint-Lambert, donc pas très loin de Montréal. Mais nous, on est une province francophone, on aimerait ça pouvoir traduire ces aventures-là pour notre lectorat francophone. Vous auriez là un nouveau marché à conquérir finalement. On promet même à la base de diffuser ces bandes dessinées francophones traduites partout dans la francophonie, donc en France, en Belgique, en Suisse, au Maroc. Mais il n'y a rien qui nous laisse croire que ça a pu prendre forme, cette diffusion-là. Il faut comprendre que les éditions Héritage, c'est un nouvel éditeur, donc la structure de distribution et de diffusion n'était peut-être pas encore très bien implantée non plus au moment où on a déjà ces très grandes ambitions. Et donc, on se contente de diffuser finalement ces bandes dessinées de super-héros traduites au Québec et dans l'Ontario francophone au départ. Il y a quelques bandes dessinées qui paraissent en 68. Rapidement, cette aventure-là prend une pause. On ne sait pas exactement pourquoi, une pause à peu près 3 ans. On peut penser que c'est le temps que toute la structure éditoriale s'organise, il fallait un peu se concentrer sur les activités principales de la maison, qui était l'édition de livres. Et donc, à partir du début des années 70, on reprend la publication de bandes dessinées de super-héros, à laquelle va se joindre l'édition, par exemple, de séries comme Archie Comics. Bandes dessinées qu'on a tous connues là, étant jeunes. Les éditions Héritage vont aussi publier des bandes dessinées de Disney Comics, donc des bandes dessinées destinées à un lecteur encore plus jeune que celui des super-héros.
Oui. En fait, puis ils vont se retrouver avec DC et Marvel sur la même étiquette, dans le fond, ici. Donc, on va métisser un peu la scène du super-héros américaine chez un même éditeur au Québec, au bout du compte.
Oui, c'est ça. Ben, c'est que les éditions Héritage voient en fait le super-héros comme un genre. Ils font pas de distinction entre les productions éditoriales d'un éditeur et un autre. Et donc, le lectorat québécois non plus n'est pas encore au courant là, de ces grandes rivalités entre les personnages de Marvel et DC Comics. Ça va venir un petit peu plus tard quand certains lecteurs très, très compétents, très passionnés aussi, vont comparer les éditions Héritage à celles originales américaines. Et là, on va se rendre compte, oups, il y a plusieurs éditeurs américains de super-héros, finalement, et chacun a ses particularités, ses forces, ses faiblesses. Mais donc, à la base, oui, chez Héritage, on a l'ambition de publier du super-héros, point. Puis on le fait en fonction des ententes qu'on arrive à conclure. Et ça aussi, c'est une entreprise qui a du succès. On parle d'environ 10 000 exemplaires tirés par mois ou par 2 mois, là, selon les séries, parce que le rythme de publication varie. Parfois, c'est mensuel, parfois, c'est bimensuel. Ce qui est, encore une fois, très, très appréciable dans un marché comme le Québec.
Et dans un contexte où il y avait quand même un gros bagage de bande dessinée, on le dit, ça a commencé depuis les années 30, il y avait déjà beaucoup de séries. Le problème d'aujourd'hui, c'est-à-dire de trouver des portes d'entrée vers des séries puis des univers qui se développent depuis pratiquement une centaine d'années, dans le fond, restait quand même existant à l'époque. Et il y avait donc une décision éditoriale qui devait être faite sur quel album, quel tome, dans le fond, amener au Québec, quel tome traduire, parce que d'un côté, on n'avait pas la capacité de tout traduire, et puisqu'on ne pouvait pas tout traduire et tout rendre disponible, mais nécessairement, il y allait avoir des pans qui allaient demeurer incompréhensibles si on les amenait de façon plus autoportante, là.
Et ces décisions-là ne sont pas prises d'emblée, ce qui crée certaines incompréhensions chez les lecteurs. C'est-à-dire qu'on va reprendre les séries américaines au départ, là où elles sont rendues du côté américain. Donc, si, par exemple, Hulk est rendu au numéro 268, bon, on le publie au Québec, ce numéro-là, mais en changeant le numéro pour mettre numéro 1 dessus. Et donc, le lecteur québécois qui découvre Hulk avec le numéro 1 est en plein milieu d'une histoire, il ne sait pas qui sont les personnages, probablement que bon, ce qui se passe a déjà été implanté du côté américain il y a 2, 3, 4 numéros, si ce n'est pas plusieurs années auparavant. Donc, on se retrouve plongé finalement dans des récits sans trop savoir où on se situe, qui est qui. Quels sont les ennemis de ces personnages-là, quels sont leurs pouvoirs même. Et donc, les lecteurs écrivent aux éditions Héritage pour dire, est-ce que c'est normal que je ne comprenne pas exactement ce qui se passe? Ça a l'air bien, mais là, les éditions Héritage répondent aussi à ces lecteurs-là. On le sait parce qu'ils publient une partie de leur correspondance dans les comic books pour remplir leur fascicule, pour combler les espaces blancs finalement. Et ce qu'ils disent finalement, c'est que oui, ben, c'est vrai, on n'a pas vraiment fait attention à ça. On va s'informer auprès des éditeurs américains, à savoir quels sont les incontournables, les connaissances à avoir pour bien se situer dans ces univers super-héroïques-là. Et plus tard, ce qui va arriver, c'est que les éditions Héritage vont décider de rééditer les histoires d'origine des personnages dont ils publient les aventures, sous forme de numéros un peu plus épais, un peu plus prestigieux, luxueux. C'est pas encore des albums comme on en retrouve aujourd'hui, mais c'est tout de même des éditions de collectionneurs, c'est comme ça qu'on les appelle, qu'on les nomme, qui sont destinées à renseigner les lecteurs sur les origines des personnages. Comme ça, ça leur fournit les connaissances essentielles pour comprendre les aventures qui suivent.
Et sachant que qui dit traduction dit adaptation aussi dans une certaine mesure, j'imagine qu'au début, ça devait être un peu plus amateur, éventuellement, ça se précise. Et il y a une variété d'éléments qu'il faut prendre en compte. Évidemment, dans le fond, on ne délocalisera pas Hulk ou l'univers Marvel ou DC de New York vers Montréal, mais à tout le moins, dans le fond, il faut franciser certaines images, il faut québéciser certaines références des célébrités, des personnages. Donc, il y a un gros travail aussi à faire pour amener une approche de traduction compétente au bout du compte.
Et ce travail-là n'est pas systématique aux éditions Héritage. Il faut comprendre que les gens travaillent avec des délais extrêmement serrés. Les publications sont mensuelles et souvent l'éditeur américain ou les éditeurs américains envoient leurs planches à la toute dernière minute aux petits traducteurs francophones du Québec. Donc, on n'est pas vraiment la priorité pour ces éditeurs-là américains qui eux-mêmes travaillent avec des délais serrés. Donc, le travail d'adaptation fait par les traducteurs, les traductrices aux éditions Héritage relève d'initiatives personnelles. Ce n'est pas une consigne éditoriale en tant que telle qui est émise très clairement. Et les traductions sont, au tout départ en tout cas, faites par les secrétaires de la maison. Donc, c'est un peu pour ça aussi qu'on retrouve des traductions parfois alambiquées, parfois très loin de l'original, mais parfois ponctuées de québécisme ou d'éléments propres à la culture québécoise. plus tard dans l'histoire de la maison Héritage, ce sont les lettreurs, donc ceux qui se chargent de reproduire, de réécrire là, les textes en français, qui sont eux-mêmes souvent des artistes et qui vont insérer des éléments québécois dans les œuvres en redessinant, par exemple, les panneaux des rues pour changer la Fifth Avenue en Avenue Laurier, ce genre de petits détails-là. Il s'agit plus de clins d'œil que d'une vraie volonté de changer le cadre des récits. Par contre, il y a certains lecteurs qui vont écrire dans les œuvres pour dire qu'ils aiment la représentation, de voir Montréal représenté en bande dessinée, tandis que c'est New York, clairement, qui apparaît en arrière-plan. Donc, ça aura peut-être réussi à berner certains jeunes lecteurs, là. Mais c'est ça. Donc, on cherche surtout à faire des clins d'œil à la culture québécoise. Je pense à un épisode des Fantastic Four où ils se promènent, donc ces super-héros, à Hollywood. Ils décident de rentrer dans un restaurant pour commander la tourtière du lac Saint-Jean. Et évidemment, les chefs d'Hollywood savent quel est ce mets québécois typique et fournissent ce repas à nos super-héros. Donc, il y a ce genre de petits éléments humoristiques, cocasses qu'on peut retrouver. Captain America, des fois, va sacrer quand il est très, très exaspéré par le sort de certains personnages ou par le dénouement de certaines aventures. Mais ça reste, ces éléments-là restent somme toute ténus dans la production globale des éditions Héritage. Là où l'éditeur québécois va interagir ou intervenir le plus concrètement pour québéciser les œuvres, c'est dans tout ce qu'on appelle le paratexte, donc tout ce qui entoure les récits en tant que tels, donc les rubriques qui vont accompagner les scénarios, les aventures. C'est là où il va pouvoir, par exemple, fournir un cadre d'interprétation pour les récits, où il va donner la parole aux lecteurs québécois, soit pour qu'ils s'adressent aux éditeurs, soit pour qu'ils communiquent entre eux, pour s'échanger des bandes dessinées. Ça fait déjà partie un petit peu là, de la pratique des fans à cette époque-là, parce que il n'y a pas de réédition des œuvres qui nous permettent de savoir qu'est-ce qui s'est passé dans les aventures antérieures. Donc, si on veut connaître ou si on veut avoir accès à des numéros qui sont parus des années avant que nous-mêmes on s'intéresse à la bande dessinée, il faut se les procurer de différentes façons, soit par échange, soit dans les marchés aux puces. Ça demande un travail de recherche plus grand. Et donc, les éditions Héritage aident les jeunes Québécois à accomplir ça, finalement à développer leur culture super-héroïque.
Et j'imagine que plus, évidemment, on rend disponible des super-héros, plus on inspire d'autres auteurs à développer des nouveaux super-héros. Donc, évidemment, ça pullulait aux États-Unis, mais il y en a eu aussi des tentatives de dire, bon, on va essayer de faire des super-héros canadiens ou des super-héros québécois. Évidemment, on va plus s'intéresser au Québec. On parlait d'Héritage tantôt, donc Héritage jusqu'à un certain point. Ça fonctionnait très bien. Ils ont fait des tentatives avec des franchises établies télévisuelles, comme Capitaine Bonhomme, Capitaine Cosmos, entre autres. Et je pense qu'en fait, tu disais 4 ou 5 essais, en fait, si je me fie au livre, où on a essayé de créer des franchises de super-héros québécoises qui n'ont pas vraiment fonctionné à l'époque, là, au final.
Oui, on en retrouve une de ces aventures-là dans Québec Humour, un fascicule qui recoupe plusieurs histoires différentes, humoristiques. Il y a une de ces histoires-là qui est créée par Robert Schoolcraft, qui est un encreur aux éditions Héritage, qui est aussi le responsable de leçons de dessin qui sont transmises dans les comics de super-héros et qui vise à enseigner aux jeunes Québécois à faire de la bande dessinée de super-héros. Donc, il y a là un apprentissage intéressant qui se fait. Et Schoolcraft, ce qu'il fait, c'est qu'il crée deux personnages, un Capitaine Québec, qui n'est pas le Capitaine Québec de Fournier, qui ne lui ressemble pas du tout, et un Capitaine Canada, qui sont deux compagnons qui se chicanent tout le temps, bien entendu, qui sont toujours en conflit, qui boudent, mais qui parviennent main dans la main, malgré tout, à arrêter les vilains là, qui s'attaquent à la province québécoise. Donc, il y a cette petite aventure-là qui est publiée. Sinon, ce que les éditions Héritage font aussi, c'est qu'elles laissent la place dans certaines séries aux jeunes créateurs québécois pour qu'ils envoient des œuvres. Et les éditions Héritage rééditent ou publient ces œuvres-là à l'intérieur de leur fascicule. C'est là qu'André Poliquin, par exemple, qui va faire par la suite sa propre revue de super-héros, c'est là qu'il fait ses premières armes. Donc, il envoie, lui, sa série, ses deux séries, en fait, l'Escadron Delta et Stranox, une de science-fiction, une de super-héros. C'est là que ça prend forme. Les éditions Héritage commentent par ailleurs les séries qui lui parviennent, qui sont créées par des jeunes Québécois et leurs commentaires sont parfois assez durs. Là. C'est drôle de lire ça avec le recul. On leur dit qu'ils n'ont rien compris des leçons de dessin, qu'ils devraient tourner, se pratiquer un peu avant d'envoyer ça aux éditeurs. Donc, on n'y va pas de délicatesse nécessairement, mais quand on regarde qui sont les auteurs qui ont envoyé de ces œuvres-là aux éditions Héritage, on se rend compte que plusieurs ont fait carrière ensuite dans la bande dessinée ou dans l'illustration. Donc, il y a vraiment eu là une espèce de passation du flambeau, là, c'est l'expression que j'utilise dans mon livre, entre les éditions Héritage et une génération de créateurs qui, eux, vont faire des nouveaux super-héros pour le lectorat québécois.
Oui, puis là, j'ai l'impression qu'on chemine tranquillement vers la fin des années 1980, parce que on le mentionnait en ouverture, dans le fond, à un moment donné, les produits dérivés, dans le fond, de plus en plus deviennent la production dominante au bout du compte. La production BD devient le laboratoire. Et donc, ça fait que dans un marché aussi niché que le Québec, il n'y a pas nécessairement possibilité de véritablement rentabiliser l'adaptation, les droits d'auteur coûtent de plus en plus cher. Donc, ça fait qu'autour de 87, pour la chronologie, donc Héritage, c'est fini. Et là, ça laisse un vide assez important. Il va y avoir d'un côté, dans le fond, des éditeurs qui vont avoir la volonté de refaire ce qu'Héritage faisait. Entre autres, tu analyses beaucoup dans l'ouvrage « Bande dessinée fantastique ». Et en parallèle, bien, ça ouvre le champ libre à des gens comme Henrik Boliquin et à d'autres, dans le fond, d'essayer d'auto-produire, d'auto-éditer ou de lancer, dans le fond, des publications qui vont tenter de reprendre le flambeau du genre super-héroïque avec un succès relatif, puisqu'il n'y a quand même rien qui va s'implanter de façon durable à cette époque-là.
Puis, pour ce qui est des aventures traduites, on peut peut-être fermer la boucle de ce côté-là en disant que finalement, il n'y a personne qui va réussir à reproduire le succès des éditions Héritage. En fait, Bande dessinée fantastique vont publier 7 bandes dessinées, si ma mémoire est bonne, seulement en l'espace d'environ 2 ans. Donc, c'est une entreprise qui parvient difficilement à atteindre même un seuil de rentabilité minimal. Donc, le désintérêt envers les productions BD-iques peut expliquer ça. On se tourne vers le jeu vidéo beaucoup à cette époque-là. Là, c'est l'époque du fin des années 80, début des années 90, du NES, là, la Nintendo Entertainment System. Plus tard, le Sega Genesis aussi va arriver avec ses aventures super-héroïques sous forme vidéoludique. Donc là, il y a ce produit-là qui est offert aux jeunes. Il y a les séries télévisées du début des années 90, les Ninja Turtles, Batman, X-Men, tout ça aussi qui accapare beaucoup de temps de loisirs des jeunes de l'époque. Mais il y a aussi le fait que les traductions françaises passent beaucoup maintenant par la France ou par la Belgique, la Suisse, bref, par la francophonie européenne. Et ça revient moins cher pour les commerçants d'ici de se procurer les traductions d'Europe que d'essayer de fournir ou de produire des traductions locales. Et donc, il y a ce passage-là qui se fait maintenant par l'Europe pour acquérir des œuvres super-héroïques américaines, mais traduites en français. Puis c'est encore le cas aujourd'hui. Il y a Presse Aventure dans les années 2000 qui va arriver à faire des traductions ici, mais encore aujourd'hui, la plupart des traductions de super-héros nous viennent d'Europe. Et pour ce qui est des créations originales, des œuvres qui sont faites par des auteurs québécois pour des lecteurs québécois, là, ce qu'on remarque, en fait, c'est que d'abord, elles sont publiées majoritairement en anglais. Il y a plusieurs raisons qui peuvent expliquer ça. Entre autres, les créateurs sont soit bilingues, soit anglophones. Donc, ils ont consommé beaucoup de bandes dessinées de super-héros eux-mêmes parce que c'était une production culturelle qui était plus accessible en raison de la langue. C'est aussi une volonté de rejoindre un très large public qui peut expliquer ce phénomène-là. On est bien conscient à la fin des années 80 que si on veut faire de la bande dessinée de super-héros au Québec, si on s'adresse uniquement au lectorat francophone, on risque pas de pouvoir être rentable. Donc, on espère, soit en produisant 2 éditions parallèles, une en anglais, une en français, ou soit en faisant uniquement des éditions anglophones, on espère rejoindre le lectorat canadien-anglais, mais aussi américain. Et ça va fonctionner pour certains éditeurs. Je pense à Matrix Graphic Series, qui est probablement l'éditeur de cette époque-là qui va connaître le plus de succès. C'est une maison d'édition qui est animée par Mark Shinblum, donc un auteur anglophone de Montréal, qui va lui-même être scénariste de certaines publications et qui va rencontrer un certain succès au sud de la frontière. Donc, on voit par exemple dans le courrier qui lui parvient, dans ses archives, mais aussi dans le courrier publié dans ses bandes dessinées, que des lecteurs, par exemple, en Californie, à New York, qui commandent ses publications, qui apprécient ces œuvres-là. On est à la fin des années 80 dans une espèce de boom du noir et blanc. Là, c'est comme ça qu'on l'appelle à l'époque. Donc, le réseau de librairies spécialisées en comic book s'est élargi aux États-Unis au point où des petits libraires peuvent faire la promotion de bandes dessinées qui viennent d'éditeurs indépendants. Donc, il y a des éditeurs qui arrivent à faire de la bande dessinée de super-héros sans avoir à rivaliser directement avec Marvel Comics, DC Comics. C'est comme ça que les Ninja Turtles vont arriver au monde. Et donc, on profite de ça du côté des éditeurs anglophones montréalais aussi. On a des librairies qui sont prêtes à accueillir nos œuvres, à les diffuser, à en faire la promotion finalement auprès d'un public qu'on peut estimer soit convaincu par ces libraires-là, soit curieux de découvrir des nouvelles productions. Je parlais avec Mark Shedblum au printemps dernier, puis il me disait finalement qu'il y avait parfois l'impression en fait que ces séries étaient beaucoup plus populaires aux États-Unis qu'elles ne l'étaient au Québec, tandis que le fondement en fait de son œuvre, c'est la relation entre le Québec et le Canada. Ces super-héros représentent les deux nations, les deux solitudes du pays. Et le conflit qui est mis en scène dans sa série Northgard en est un politique qui est ancré en fait dans les questions référendaires, nationalistes, identitaires. Donc, c'est curieux qu'une œuvre qui est aussi fortement imprégnée de la culture, de la politique, de l'identité québécoise retrouve finalement son ou trouve un public du côté américain plus que du côté canadien.
Oui, puis dans un contexte où on imagine que la spécificité locale devenait un argument de vente aussi pour cette production BD-là en disant, ben voici des héros canadiens, voici des héros québécois. Si vous achetez ces publications-là, vous encouragez la production d'ici, l'identité d'ici, etc., etc., dans un contexte d'américanisation croissante de la production.
Oui, puis ça n'a pas semblé convaincre personne du côté canadien, cet argument-là. En fait, il y a peut-être quelques lecteurs que ça a intéressé, mais cette canadienneté ou québécité, parce que ça dépend des productions, parfois on misait plus sur un aspect d'identité qu'un autre. Là. Mark Shenblum mise beaucoup sur la canadienneté de son personnage, entre autres. Mais donc, cet aspect-là devenait un peu exotique pour le lectorat américain. C'était un peu découvrir quelque chose de nouveau. On était habitué aux super-héros patriotiques américains comme Captain America. Là, on découvrait autre chose. Tandis que du côté canadien, les questions référendaires, les questions de tension entre le Canada anglais et le Canada français, finalement, on ne voulait plus en entendre parler, même sous forme super-héroïque. Donc, ça peut expliquer une partie de ce succès au sud de la frontière et d'une certaine indifférence du côté québécois et canadien. Quoique, au fil des années, cette production-là a été reconnue. Mark Shenblum, qui travaille beaucoup avec Gabriel Morissette, un illustrateur aussi québécois, ont reçu, par exemple, des accolades là, au fil des années, ont reçu des prix qui viennent un petit peu souligner finalement leur rapport au patrimoine BDI canadien. Donc, ces œuvres-là, si elles n'ont pas eu un succès commercial immédiat, sont finalement entrées dans la culture au fil du temps.
Oui, puis on démontrait dans le fond, puis en conclusion, dans le fond, que l'appropriation du genre peut aller jusqu'à justement une adaptation de ce genre-là des questions, puis à des réalités identitaires très ancrées chez nous, autant que ça l'a été ailleurs dans le monde, par ailleurs aussi. Là.
C'est une de mes hypothèses en fin d'ouvrage que le fait qu'il n'y ait plus de grandes tensions, de grandes ruptures, de grands enjeux sociaux qui divisent les Québécois ou les Canadiens, ça peut expliquer qu'il n'y ait plus de super-héros canadiens ou québécois. Parce que ces super-héros-là, quand on les crée, quand on les produit, c'est toujours en temps de crise pour venir résoudre un problème important, soit une crise politique par rapport aux forces étrangères en la guerre froide, soit une crise à l'intérieur même du pays. Et donc là, quand le calme revient dans la société canadienne ou québécoise, en général, les super-héros ont tendance à se retirer de la production BDique locale. Donc, je ne sais pas, je ne souhaite pas une prochaine crise très grave, là, mais peut-être que ça prendra ça pour que les super-héros québécois ou canadiens réémergent dans notre production locale.
Et évidemment, vous aurez compris qu'on a fait un léger survol de l'ouvrage qui s'appelle Alter Ego, le genre super-héroïque dans la BD au Québec, donc 1968 à 1995. Mais il y en a beaucoup plus, donc c'est extrêmement riche, très documenté, avec une bonne bibliographie aussi. Bref, si c'est un sujet qui vous intéresse, ben, je pense que vous pouvez aller creuser sans heurts et sans crainte dans cet ouvrage qui est disponible aux presses de l'Université de Montréal. Je pense qu'on aurait pu encore se prendre une deuxième heure et on aurait encore eu beaucoup de matériel. Mais d'ici là, ben, dans le fond, Philippe Rioux, merci beaucoup d'avoir passé l'émission avec nous.
Merci, c'est très plaisant.
Et voilà pour nous. Donc, c'est ainsi qu'il conclut cette édition de La vie en BD. C'était Raymond Poirier et on se dit à la semaine prochaine.